Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur les chantiers qui attendent le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Christophe Dabiré aura la lourde tâche de redynamiser l'action du gouvernement. Il faut dire que les défis à relever sont particulièrement nombreux, à commencer par la lutte contre le terrorisme. Les attaques sont de plus en plus fréquentes. Le pays est également confronté à la crise économique et la grogne sociale contre la cherté de la vie, notamment après la hausse du prix des carburants a pris de l'ampleur ces derniers mois. Toute la question, évidemment, est de savoir si Christophe Dabiré a le bon profil pour faire face à la situation. Parviendra-t-il à répondre aux attentes de la population? Vous êtes sur place au Burkina Faso, appelez-nous, témoignez en direct sur RFI, 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission et je lirai évidemment, comme tous les matins, des témoignages qui nous arrivent également sur le compte WhatsApp de l'émission. Notez le numéro 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Et nous allons commencer avec Amadou, qui nous appelle de Conakry. Bonjour Amadou.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Mondiale, particulièrement à ceux du Tomboya Kokoma.
Très bien, vous êtes en Guinée, on les salue également au passage. Vous avez des questions, vous, concernant la hausse des frais d'inscription dans les universités françaises pour les étudiants non membres de l'Union européenne.
Bien sûr, Juan. Bon, le gouvernement français a décidé, depuis le mois de novembre dernier, d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants non européens. Selon eux, pour attirer plus d'étudiants. Mais cette augmentation ne passe pas inaperçue sur certaines universités qui ont même résisté cette décision du gouvernement. Maintenant, ont-elles le droit d'aller à l'encontre de la décision du gouvernement?
Alors,
peut-on s'attendre à ce que de nouveau...
Oui. Alors on va déjà répondre effectivement à cette première question. C'est vrai qu'on a pu rapidement constater la colère de nombreux étudiants après l'annonce il y a deux mois du Premier ministre Édouard Philippe d'augmenter les frais d'inscription. Tenez-vous bien, dès la rentrée prochaine, un étudiant extra-communautaire devra débourser 2770 euros pour une inscription en licence, 2770 euros au lieu de 170 aujourd'hui. Colère donc des étudiants, et désormais ce sont effectivement, vous le disiez Amadou, les présidents d'universités qui montent au créneau pour demander la suppression de cette mesure. Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service France de RFI. Les universités ont-elles le droit de refuser cette hausse des frais d'inscription et donc d'aller finalement à l'encontre de la décision du gouvernement?
Bien sûr non Amadou, hein. Officiellement les universités, elles n'ont absolument pas le droit d'aller à l'encontre de la décision du gouvernement français. Même si pour l'instant, aucun décret gouvernemental n'a été signé pour l'application de cette augmentation. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a 8 universités sur 72 qui s'opposent à cette directive. Je vais les rappeler, il s'agit des universités de Rennes 2, Lyon 2, Toulouse-Jean Jaurès, Nanterre, Angers, Aix-Marseille, Clermont-Auvergne et Rouen-Normandie. Et ces universités, eh bien, elles ont déjà fait savoir qu'elles utiliseraient toutes les possibilités réglementaires existantes, j'ai bien dit réglementaires, pour permettre aux étudiants extra-communautaires de continuer à payer les mêmes frais qu'aujourd'hui.
Alors justement, Lucie Bouteloup, quelles sont ces possibilités réglementaires?
Eh bien, grâce à un décret qui est paru en 2013, les facultés ont la possibilité d'exonérer jusqu'à 10% de leurs étudiants. C'est d'ailleurs la principale solution envisagée par ces universités qui s'opposent à l'augmentation. Mais le problème, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, les universités, elles ne savent toujours pas si elles pourront bénéficier d'autant d'exonérations à la rentrée prochaine. On parle de 10, on parle de 15, on parle de moins, on ne sait pas trop. Et puis, toutes les universités, eh bien, elles n'accueillent pas le même nombre d'étudiants extra-communautaires. Donc, 10% pour certaines, ça peut paraître bien insuffisant. L'autre solution qu'elles ont également, c'est l'attribution de bourses, puisque le gouvernement a annoncé qu'il allait tripler leur nombre. Mais là encore, pour l'instant, on ne connaît ni les critères d'attribution, ni le système de répartition de ces bourses au sein des universités françaises.
Amadou, vous aviez une autre question?
Oui. Bon, je disais, peut-on s'attendre à ce que de nouvelles universités rejoignent la contestation ?
Alors, pour l'instant, vous le disiez, Lucie, 8 universités françaises refusent donc la hausse des frais d'inscription. Le mouvement peut-il faire tache d'huile ?
C'est difficile de se prononcer pour l'instant, hein, Amadou. Ça dépend certainement ce qui va ressortir de la concertation demandée en décembre par la CPU, la conférence des présidents d'université. Hein. Et dans cette concertation, il y a actuellement 5 personnes qui ont été nommées par Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Et ces 5 personnes, eh bien, elles réfléchissent aux engagements clés qui accompagneront la hausse des frais d'inscription. Alors, dans cette concertation, il va être question des procédures de délivrance des visas et des titres de séjour, de la place des enseignements en langues étrangères, des conditions de logement ou encore de la mise en place d'un référent unique et personnalisé pour tout étudiant international. Bref, si tout se passe bien, on devrait connaître les conclusions de cette concertation le 15 février prochain. Mais dans tous les cas, la ministre a déjà prévenu que cette concertation ne changerait rien ni au principe, ni au calendrier de la hausse des frais d'inscription.
Ni au calendrier. Le problème, c'est que c'est justement le calendrier qui pose problème.
C'est exactement ça. Et la CPU, d'ailleurs, a voté à l'unanimité la suspension de cette mesure pour cette raison. Parce que pour les présidents, ça semble impossible, les présidents d'université, hein, ça semble impossible de mettre en œuvre ces réformes avant la rentrée 2020. Il faut bien comprendre que les étudiants étrangers, ils sont déjà en train de s'inscrire pour la rentrée prochaine. Et ça paraît impensable qu'ils le fassent sans connaître les frais qu'ils auront à payer en septembre prochain.
Effectivement. Donc, si je comprends bien, pour l'instant, les étudiants et les universités sont dans le flou. Amadou, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci Lucie Bouteloup d'être venue répondre à cette question qui, à mon avis, intéresse plus d'un auditeur de RFI. On aura certainement l'occasion d'en débattre une fois de plus sur cette antenne dans les prochaines semaines. 33 9 693 693 70. Bonjour Moïse.
Bonjour Monsieur Wan.
Vous êtes à Lomé au Togo. Ah non, vous êtes à Cara, autant pour moi, Cara au Togo. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, Monsieur Wan, j'ai écouté sur la chaîne de RFI que Monsieur Poli, l'activiste togolais, a été inculpé à 2 ans de prison ferme pour un crime de trouble à l'ordre public. Mmh. Son avocat affirme qu'il y a aucune charge retenue contre lui. Ma question est de savoir, le juge, avant de l'inculper, appuyer sur quel type de... Sur quel type d'éléments avant de l'infliger cette peine?
Alors, on va tout vous expliquer. Folisa Chivi, du mouvement En Aucun Cas, a effectivement été condamné à 36 mois de prison, dont 12 avec sursis, ce qui fait donc 2 ans de prison, effectivement. Bonjour Peter Sassou Dogbé.
Bonjour Juan, bonjour Moïse.
Correspondant de RFI au Togo, Folisa Chivi arrêté, rappelons-le, en août dernier alors qu'il tentait d'organiser une conférence de presse. Il a été condamné, et Moïse le rappelait très bien, pour troubles aggravés à l'ordre public et apologie de crimes et délits. Seulement voilà, ses avocats affirment qu'aucune preuve n'a été apportée durant le procès. Expliquez-nous sur quel élément le juge s'est appuyé pour le condamner.
Eh bien, le juge s'est surtout fondé sur le fait que le mouvement en aucun cas n'a pas de base légale. L'association que dirige Folisa Chivi est en marge des lois de la République, dit le procureur. Folisa Chivi n'a pas d'autorisation avant d'organiser sa conférence de presse ce jour du 22 août où il a été appréhendé. Le procureur a entré dans le dossier des captures d'écran appelant une caravane dans le cadre d'une journée Togo Rouge. Selon le procureur toujours, Folisa Chivi est un tribun qui se bat pour attirer la sympathie de ses militants. Il aurait tenu des discours sur les ondes de radio nationales et internationales. Au cours de ces discours, il aurait tenu des propos séditieux et qu'il aurait qualifié le régime togolais de sanguinaire. Folisa Chivi a déjà fait l'objet de procès au cours duquel des gens ont été blessés. Il aurait forcé le cordon de sécurité le jour de sa conférence de presse. Folisa Chivi aurait tenu des propos violents et des invectives à l'endroit des forces de l'ordre. Mmh. Voilà un peu pêle-mêle ce que dit le procureur pour demander sa condamnation. Cependant, ses avocats disent que tous ces propos et actes attribués à Folisa Chivi manquent de base factuelle. Aucun agent n'est venu, selon les avocats, ni à la barre, ni devant le juge d'instruction, encore moins devant la police judiciaire au cours de l'enquête préliminaire, pour témoigner de ces propos violents qui devaient caractériser les faits qu'on reproche à Folie Sativi. Voilà.
Et rappelons que la comparution de Folie Sativi devant le tribunal de Lomé a duré moins d'une minute. Vous aviez une autre question, Moïse?
Oui. Est-ce que M. Folie a-t-il des recours pour contrecarrer la décision du juge?
Alors oui, il a des recours. Il a d'ailleurs immédiatement fait appel, Peter.
Oui, la décision a été rendue le 16 janvier. Folie Sativi est donc condamné, vous l'avez dit, à 36 mois, dont 12 assortis de sursis. Ses avocats ont fait appel dès le 18 janvier. Selon les avocats, ils attendent que le dossier soit enrôlé, que le jugement soit débattu et fasse l'objet d'un nouvel examen par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel.
Ouais. En deux mots, Peter Sassou Dogbé, quelles sont ses chances d'être libéré?
Chance, c'est trop dire. Folie Sativi dérangeait et ce n'est un secret pour personne. Folie Sativi doit, quand il doit comparaître, c'est tout un déploiement de forces de gendarmes et de policiers. C'est l'unité d'intervention de gendarmerie qui est tout autour, cagoulé, matraque au point, fouille systématique de ceux qui doivent rentrer dans le palais, ce qui fait dire à ses avocats que le cas Folie Sativi est plus politique que toute autre chose. En somme, ce recours ne profitera à Folie Sativi que si ceux qui le dérangent décident de le voir dehors.
On suivra évidemment de près cette audience donc en appel. Merci beaucoup Peter Sassou Dogbé. Moïse, bonne journée à Cara et on salue évidemment tous ceux qui nous écoutent sur place. Je sais qu'ils sont nombreux. D'ailleurs, ils réagissent souvent. Hein, ils nous appellent souvent, notamment en première partie pour poser des questions. 9h22 à Paris. On poursuit avec Appétit. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue sur l'antenne. Vous avez des questions après l'attentat de la semaine dernière à Bogota, en Colombie?
Bien sûr.
Eh bien, on vous écoute.
L'école de police à Bogota, la capitale colombienne, a été visée par un attentat de l'ELN le 17 janvier dernier. J'ai deux questions à ce propos.
Oui.
La première, comment l'ELN justifie cet attentat?
Alors, on va déjà, si vous le permettez, répondre à cette première question avec Pascal Drouot. Bonjour.
Bonjour.
Président de l'association France-Amérique Latine, on vous doit plusieurs ouvrages, notamment FARC, Confession d'un guérillero aux éditions Choiseul. Alors l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, qui est donc la dernière guérilla encore active en Colombie, a effectivement revendiqué cette attaque à la voiture piégée qui a fait, rappelons-le, 20 morts, 20 policiers tués, 68 blessés. Et l'ELN a également justifié cet attentat à suicide en invoquant la légitime défense. Quels sont ces arguments?
Absolument. L'armée de libération nationale, l'ELN, qui a commis donc cet attentat à l'intérieur d'une caserne, la caserne des cadets de police, Général Santander, à Bogota, donc une cible bien définie, bien précise, avance l'idée de la légitime défense en disant en effet que les attaques ces dernières semaines militaires dans le pays mettaient en péril la possibilité du dialogue qui avait été engagé depuis en fait 2017 par l'ancien président colombien Juan Manuel Santos. La vérité, c'est que l'arrivée d'un nouveau chef d'État en Colombie, Iván Duque, qui avait été élu sur une ligne dans le cadre des dialogues de paix sortant avec les FARC et en cours avec le LN, était sur une ligne beaucoup plus dure et que le dialogue politique, l'idée même d'un dialogue politique, était rompue de facto depuis le mois d'août.
Oui, effectivement, de facto, dites-vous Pascal Drouot. En même temps, ce que dit la guérilla, c'est que le gouvernement a continué les attaques alors que la guérilla elle-même avait décrété un cessez-le-feu unilatéral pendant les fêtes de fin d'année. Et malgré ce cessez-le-feu, le gouvernement poursuivait ses attaques.
C'est vrai, c'est ce qui est avancé par Pablo Beltrán, qui est le chef des négociateurs ELN actuellement à Cuba, pour rappeler que l'acte qui s'est produit à Bogota était pour eux, j'ouvre des guillemets, un acte, une opération licite qui s'inscrit dans le cadre du droit de guerre. Fin de citation.
Oui. Droit de guerre, parce que l'attaque n'a pas visé des civils, mais des policiers, les policiers qui dépendent du ministère de la Défense. Alors, Appétit avait une autre question à vous poser, Pascal Drouot. Appétit.
Quelles quelles sont les conséquences possibles de cette action de l'ELN sur le processus de paix en Colombie?
Ah, processus de paix qui, à vous entendre, Pascal Drouot, était déjà fragilisé. Qu'en est-il aujourd'hui?
Ben, pour le moment, il n'y a plus en tout cas, il n'y a plus de dialogue de paix. Alors, le processus, il faut distinguer ce qui a marqué les FARC. Hein, les FARC, un accord de paix a été signé en Colombie en 2016. Donc, les FARC se sont transformées en un parti politique. Elles n'existent plus comme guérilla. Ça, c'est terminé. Mmh. Il reste donc, en effet, le LN, l'Armée de Libération Nationale. Les conséquences, aujourd'hui, en tout cas, sur le plan immédiat, la rupture annoncée, puisque le gouvernement a dit qu'il ne voulait plus dialoguer avec le LN, oblige, dans l'application de protocoles qui prévoient l'idée de rupture, un retour des négociateurs en Colombie dans les 15 jours. Mmh. Cela veut dire d'ici le 2 février. Évidemment, eux-mêmes avancent les mesures de sécurité, ils ne se sentent pas en sécurité dans l'idée de ce retour. Donc, en tout cas, il va falloir envisager d'appliquer ce protocole, et ce qui signifie donc, d'une part, le retour. D'autre part, aujourd'hui, la conséquence donc immédiate, c'est la rupture de ce dialogue. Ceci étant, Pablo Beltran, donc qui est le négociateur en chef et qui fait partie du commandement de cette guérilla, qui est une guérilla qui est plutôt guévariste, qui s'inspire des principes de guérilla de cubains, hein. Ils sont très très proches des cubains, c'est différent de la guérilla des FARC en son temps. Avancent l'idée d'un, à terme, d'un retour au dialogue politique, ce qui apparaît aujourd'hui totalement invraisemblable.
Invraisemblable. Donc, patience, diront les uns. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Drouot. On remercie évidemment Appétit qui nous appelait de Lomé. Il nous reste à peine 3 minutes pour une question qui en méritait beaucoup plus. Malheureusement, les uns et les autres sont bavards et on est là pour prendre le temps malgré tout et vous expliquer l'actualité. Blaise, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Bamako, on vous écoute.
Juan, Oxfam International a dénoncé l'inégalité grandissante entre riches et pauvres. Alors, comment explique-t-on cette inégalité qui ne cesse de se creuser?
Alors, c'est Pauline Leclerc qui va vous répondre. Bonjour.
Bonjour.
Responsable de campagne sur les questions de justice fiscale et d'inégalité, vous avez publié il y a quelques jours un rapport qui effectivement insiste sur l'inégalité croissante. Les riches sont plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et les riches il faut aujourd'hui, c'est un peu compliqué. En fait, aujourd'hui, les 26 plus grandes fortunes du monde ont autant d'argent que la moitié de l'humanité.
Voilà, exactement. C'est un chiffre qui est extrêmement choquant et qui doit tous nous indigner et surtout nous rappeler qu'il n'y a aucune fatalité en fait dans l'accroissement des inégalités depuis des années. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres s'est encore accru en 2018. Ces inégalités, elles sont bien le produit d'un modèle économique auquel les gouvernements, la plupart des gouvernements dans le monde, n'ont pas su poser des limites, des régulations. Donc c'est bien la responsabilité des gouvernements que l'on met en cause avec ce rapport. Non seulement les gouvernements ne prennent pas la mesure de l'accroissement des inégalités, mais ils contribuent à les alimenter par des politiques injustes. Il y a deux grands facteurs qui expliquent l'accroissement des inégalités. Tout d'abord, les grandes fortunes et les multinationales ne payent pas leur juste part d'impôts parce que depuis des années, les gouvernements ont de plus en plus allégé l'imposition, que ce soit des multinationales ou des grandes fortunes. L'impôt sur le revenu maximum a été divisé par 2 depuis 50 ans. Et puis, il y a encore l'évasion fiscale qui fait perdre des milliards d'euros chaque année aux États et auxquels les gouvernements ne posent pas suffisamment de limites. Et le deuxième facteur, c'est que les services publics, l'éducation, la santé, la protection sociale sont sous-financés par les États.
Et donc c'est pour ça qu'il faudrait que les entreprises et les plus riches payent davantage de taxes et d'impôts. On aura l'occasion, Pauline Leclerc, de vous rappeler, de prendre le temps de répondre à Blaise, d'autant que je me suis un peu mélangé les pinceaux au début de cette conversation. À suivre, le journal.